Barbey d'Aurevilly, du dandysme et de Georges Brummel. Chapitre 10. Quoique Alcibiade ait été le plus joli des généraux, Georges Brian Brummel n'avait pas l'esprit militaire. Il ne resta pas longtemps dans le 10e hussard. Il y était entré, peut-être, dans un but plus sérieux qu'on a cru pour se rapprocher du prince de Galles et nouer les relations qui le mirent vite en relief. On a dit, avec assez de mépris, que l'uniforme dut exercer une fascination irrésistible sur la tête de Brummel. C'était expliquer le dandy avec des sensations de sous-lieutenant. Un dandy qui marque tout de son cachet, qui n'existe pas, en dehors d'une certaine exquise originalité, Lord Byron, doit nécessairement haïr l'uniforme. Du reste, et pour des choses plus graves que cette question de costume, c'est dans la donnée des facultés de Brummel d'être mal jugé son influence morte. Quand il vivait, les plus récalcitrants la subissaient. Mais à présent, c'est de la psychologie difficile à faire avec les préjugés dominants que l'analyse d'un tel personnage. Les femmes ne lui pardonneront jamais d'avoir eu de la grâce, comme elle. Les hommes, de n'en pas avoir, comme lui. On l'a déjà dit plus haut, mais on ne se lassera point de le répéter. Ce qui fait le dandy, c'est l'indépendance. Autrement, il y aurait une législation du dandysme, mais il n'y en a pas. Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s'arrête à temps et qui trouve, entre l'originalité et l'excentricité, le fameux point d'intersection de Pascal. Voilà pourquoi Brummel ne put se plier aux contraintes de la règle militaire, qui est un uniforme aussi. Sous ce point de vue, il fut un détestable officier. Monsieur Gess, cet admirable chroniqueur, qui n'oublie pas assez, raconte plusieurs anecdotes sur l'indiscipline de son héros. Il rompt les rangs dans les manœuvres, manque aux ordres de son colonel, mais le colonel est sous le charme, il ne sévit pas. En 3 ans, Brummel devient capitaine. Tout à coup, son régiment est commandé pour aller tenir garnison à Manchester. Et sur cela seul, le plus jeune capitaine du plus magnifique régiment de l'armée quitte le service. Il dit au prince de Galles qu'il ne voulait pas s'éloigner de lui. C'était plus aimable que de parler de Londres, car c'était Londres surtout qui le retenait. Sa gloire était née là. Elle était autochtone de ses salons, où la richesse, le loisir et le dernier degré de civilisation produisent ces affectations charmantes qui ont remplacé le naturel. La perle du dandysme tombée à Manchester, ville de manufacture, c'est aussi monstrueux que Rivarol à Hambourg. Il sauva l'avenir de sa renommée. Il resta à Londres, il prit un logement dans Chesterfield Street, au numéro 4, en face de George Selwyn, un de ces astres de la mode qu'il avait fait pâlir. Sa fortune matérielle, assez considérable, n'était point au niveau de sa position. D'autres, et beaucoup parmi ses fils de Lord et de Nabab, avaient un luxe qui eût écrasé le sien, si ce qui ne pense pas pouvait écraser ce qui pense. Le luxe de Brummel était plus intelligent qu'éclatant. Il était une preuve de plus de la sûreté de cet esprit, qui laissait l'écarlate au sauvage, et qui inventa plus tard ce grand axiome de la toilette. Pour être bien mis, il ne faut pas être remarqué. Brian Brummel eut des chevaux de main, un excellent cuisinier, et le home d'une femme qui serait poète. Il donnait des dîners délicieux, où les convives étaient aussi choisis que les vins. Comme les hommes de son pays, et surtout de son époque, il aimait à boire jusqu'à l'ivresse. Lymphatique et nerveux, dans l'ennui de cette existence oisive et anglaise, à laquelle le dandysme n'échappe qu'à moitié, il recherchait l'émotion de cette autre vie que l'on trouve au fond des breuvages, qui bat plus fort, qui teinte et éblouit. Mais alors, même le pied engagé dans le tourbillonnant abîme de l'ivresse, il y restait maître de sa plaisanterie, de son élégance, comme Sheridan dont on parle toujours, parce qu'on le retrouve sans cesse au bout de toutes les supériorités. C'est par là qu'il asservissait. Les prédicateurs méthodistes, il n'y en a pas qu'en Angleterre, et tous les myopes qui ont risqué leurs maux sur Brummel l'ont peint, et rien n'est plus faux, comme une espèce de poupée sans cerveau et sans entrailles. Et pour rapetisser l'homme encore davantage, ils ont rapetissé l'époque dans laquelle il vécut, en disant qu'elle avait sa folie. Tentative et peine inutiles. Ils ont beau frapper sur ce temps glorieux pour la Grande-Bretagne, comme à Florence on frappa sur la boule d'or dans laquelle d'eau qu'on voulait comprimer était renfermée, l'élément rebelle traversa les parois plutôt que de plier. Et eux ne réduiront la société anglaise de 1794 à 1816 jusqu'à n'être qu'une société en décadence. Il est des siècles incompressibles qui résistent à tout ce qu'on en dit. La grande époque des Pitt, des Fox, des Wyndham, des Byron, des Walter Scott deviendrait tout à coup petite parce qu'elle eût été remplie du nom de Brummel. Si une telle prétention est absurde, Brummel avait donc en lui quelque chose digne d'attirer et de captiver les regards d'une grande époque, sorte de regards qui ne se prennent pas, comme les oisillons, au miroir, seulement à la peau de vêtements gracieux ou splendides. Brummel, qui les a passionnés, attachait d'ailleurs beaucoup moins d'importance qu'on a cru à cet art de la toilette pratiqué par le grand Chatham. Ces tailleurs, Davidson et Meyer, dont on a voulu faire avec toute la bêtise de l'insolence les pères de sa gloire, n'ont point tenu dans sa vie la place qu'on leur donne. Écoutons Lister plutôt. Il peint ressemblant. Il lui répugnait de penser que ces tailleurs étaient pour quoi que ce fût dans sa renommée. Et il ne se fiait qu'au charme exquis d'une aisance noble et polie qu'il possédait à un très remarquable degré. Lors de son début, il est vrai, et avec ses tendances extérieures, au moment où le démocratique Charles Fox introduisait, apparemment comme effet de toilette, le talon rouge sur les tapis de l'Angleterre, Brummel dut se préoccuper de la forme sous tous ses aspects. Il n'ignorait pas que le costume a une influence latente, mais positive sur les hommes qui le dédaignent le plus du haut de la majesté de leur esprit immortel. Mais plus tard, il se déprit, comme le dit Lister, de cette préoccupation de jeunesse, sans l'abolir pourtant dans ce qu'elle avait de conforme à l'expérience et à l'observation. Il resta mis d'une façon irréprochable, mais il éteignit les couleurs de ses vêtements, en simplifia la coupe et les porta sans y penser. Il arriva ainsi au comble de l'art qui donne la main au naturel. Seulement, ses moyens de faire étaient du plus haut parage, et c'est ce qu'on a trop, beaucoup trop oublié. On l'a considéré comme un être purement physique, et il était au contraire un intellectuel, jusque dans le genre de beauté qu'il possédait. En effet, il brillait bien moins par la correction des traits que par la physionomie. Il avait les cheveux presque roux, comme Alfieri, et une chute de cheval dans une charge avait altéré la ligne grecque de son profil. Son air de tête était plus beau que son visage, et sa contenance, physionomie du corps, l'emportait jusque sur la perfection de ses formes. Écoutons Lister. Il n'était ni beau ni laid, mais il y avait dans toute sa personne une expression de finesse et d'ironie concentrée, et dans ses yeux une incroyable pénétration. Quelquefois, ses yeux sagaces savaient se glacer d'indifférence sans mépris, comme il convient à un dandy consommé, à un homme qui porte en lui quelque chose de supérieur au monde visible. Sa voix magnifique faisait la langue anglaise aussi belle à l'oreille qu'elle l'est aux yeux et à la pensée. Il n'affectait pas d'avoir la vue courte, mais il pouvait prendre, dit encore Lister, quand les personnes qui étaient là n'avaient pas l'importance que sa vanité eût désiré, ce regard calme mais errant qui parcourt quelqu'un sans le reconnaître, qui ne se fixe ni ne se laisse fixer, que rien n'occupe et que rien n'égare. Tel était le beau George Brian Brummell. Nous qui lui consacrons ces pages, nous l'avons vu dans sa vieillesse, et l'on reconnaissait ce qu'il avait été dans ses plus étincelantes années, car l'expression n'est pas à la portée des rides, et un homme remarquable, surtout par la physionomie, est bien moins mortel qu'un autre homme. Du reste, ce que promettait sa physionomie, son esprit le tenait, et au-delà. Ce n'était pas pour rien que le rayon divin se jouait autour de son enveloppe, mais parce que son intelligence, d'une espèce infiniment rare, s'adonnait peu à ce qui maîtrise, à celle des autres hommes, serait-il juste de la lui nier ? Il était un grand artiste à sa manière. Non seulement son art n'était pas spécial, ne s'exerçait pas dans un temps donné, c'était sa vie même, le scintillement éternel de ses facultés qui ne se repose pas dans l'homme, créé pour vivre avec ses semblables. Il plaisait avec sa personne comme d'autres plaisent avec leurs œuvres. C'était sur place qu'était sa valeur. Il tirait de sa torpeur, chose difficile, une société horriblement blasée, savante, en proie à toutes les fatigues par l'émotion des vieilles civilisations. Et pour cela, il ne sacrifiait pas une ligne de sa dignité personnelle. On respectait jusqu'à ses caprices. Ni Etheredge, ni Cibber, ni Congreve, ni Van Prug ne pouvaient introduire un tel personnage dans leur comédie, car le ridicule ne l'atteignait jamais. Il ne l'eût pas esquivé à force de tact, bravé à force d'aplomb, qu'il s'en fût garanti à force d'esprit, bouclier qui avait un dard à son centre et qui changeait la défense en agression. Ici, on comprendra mieux peut-être. Les plus durs à sentir la grâce qui glisse sentent la force qui appuie. Et l'empire de Brummell sur son époque paraîtra moins fabuleux, moins inexplicable, quand on saura ce qu'on ne sait pas assez. Quelle force de raillerie il avait. L'ironie est un génie qui dispense de tous les autres. Elle jette sur un homme l'air de sphinx qui préoccupe comme un mystère et qui inquiète comme un danger. Or, Brummell la possédait et s'en servait de manière à transir tous les amours-propres, même en les caressant, et à redoubler les mille intérêts d'une conversation supérieure par la peur des vanités qui ne donnent pas d'esprit, mais qui l'animent dans ceux qui en ont, et fait circuler plus vite le sang de ceux qui n'en ont pas. C'est le génie de l'ironie qui le rendit le plus grand mystificateur que l'Angleterre ait jamais eu. Il n'y avait pas, dit l'auteur de Grunby, de gardien de ménagerie plus habile à montrer l'adresse d'un singe qu'il ne l'était à montrer le côté grotesque caché, plus ou moins, dans tout homme. Son talent était sans égal pour manier sa victime et pour lui faire exposer elle-même ses ridicules sous le meilleur point de vue possible. Plaisir, si l'on veut, quelque peu féroce, mais le dandysme est le produit d'une société qui s'ennuie, et s'ennuyer ne rend pas bon. C'est ce qu'il importe de ne pas perdre de vue quand on juge Brummell. Il était avant tout un dandy, et il ne s'agit que de sa puissance. Singulière tyrannie qui ne révoltait pas. Comme tous les dandys, il aimait encore mieux étonner que plaire. Préférence très humaine mais qui mène loin les hommes, car le plus beau des étonnements, c'est l'épouvante. Sur cette pente, où s'arrêter ? Brummel le savait seul. Il versait à dose parfaitement égale la terreur et la sympathie, et il en composait le filtre magique de son influence. Son indolence ne lui permettait pas d'avoir de la verve, parce que avoir de la verve, c'est se passionner. Se passionner, c'est tenir à quelque chose, et tenir à quelque chose, c'est se montrer inférieur. Mais de sang-froid, il avait du trait, comme nous disons en France. Il était mordant dans sa conversation, autant qu'Hazlitt dans ses écrits. Ses mots crucifiaient. Seulement, son impertinence avait trop d'ampleur pour se condenser et tenir dans des épigrammes. Des mots spirituels qu'il exprimait, il la faisait passer dans ses actes, dans son attitude, son geste et le son de sa voix. Enfin, il la pratiquait avec cette incontestable supériorité qu'elle exige entre gens comme il faut pour être subie. Car elle touche à la grossièreté, comme le sublime touche au ridicule. Et si elle sort de la nuance, elle se perd. Génie, toujours à moitié voilé, l'impertinence n'a pas besoin du secours des mots pour apparaître. Sans appuyer, elle a une force bien autrement pénétrante que l'épigramme la plus brillamment rédigée. Quand elle existe, elle est le plus grand porte-respect qu'on puisse avoir contre la vanité des autres, si souvent hostile, comme elle est aussi le plus élégant manteau qui puisse cacher les infirmités qu'on sent en soi. À ceux qui l'ont, qu'est-il besoin d'autre chose ? N'a-t-elle pas plus fait pour la réputation de Talleyrand que cet esprit même ? Fille de la légèreté et de l'aplomb, deux qualités qui semblent s'exclure, elle est aussi la sœur de la grâce, avec laquelle elle doit rester unie. Toutes deux s'embellissent de leur mutuel contraste. En effet, sans l'impertinence, la grâce ne ressemblerait-elle pas à une blonde trop fade ? Et sans la grâce, l'impertinence ne serait-elle pas une brune trop piquante ? Pour qu'elles soient bien ce qu'elles sont chacune, il convient de les entremêler. Et voilà à quoi Georges Brian Brummel réussissait mieux que personne. Cet homme, trop superficiellement jugé, fut une puissance si intellectuelle qu'il régna encore plus par les airs que par les mots. Son action sur les autres était plus immédiate que celle qui s'exerce uniquement par le langage. Il la produisait par l'intonation, le regard, le geste, l'intention transparente, le silence même. Et c'est une explication à donner du peu de mots qu'il a laissés. D'ailleurs, ces mots, à en juger par ceux qui les ont rapportés, manquent pour nous de saveur ou en ont trop, ce qui est une manière d'en manquer encore. On y sent l'âpre influence du génie salin de ce peuple qui boxe et s'enivre, et qui n'est pas grossier, où nous, Français, cesserions d'être délicats. Qu'on y songe. Ce que l'on appelle exclusivement « esprit » dans les produits de la pensée, tenant essentiellement à la langue, aux mœurs, à la vie sociale, aux circonstances qui changent le plus de peuple à peuple, doit mourir dépaysé dans l'exil d'une traduction. Même les expressions qui le caractérisent pour chaque nation sont intraduisibles avec netteté dans la profondeur de sens qu'elles ont. Essayez, par exemple, de trouver des corrélatifs au « wit », à l'humour, au fun, qui constitue l'esprit anglais dans son originale triplicité. Muable, comme tout ce qui est individuel, l'esprit ne transborde pas plus d'une langue dans une autre que la poésie, qui, du moins, s'inspire de sentiments généraux. Comme de certains vins qui ne savent pas voyager, il doit être bu sur son terroir. Il ne sait pas vieillir non plus. Il est de la nature des plus belles roses qui passent vite et c'est peut-être le secret du plaisir qu'il cause. Dieu a souvent remplacé la durée par l'intensité de la vie, afin que le généreux amour des choses périssables ne se perdît pas dans nos cœurs. On ne citera donc pas les mots de Brummel. Ils ne justifieraient pas sa renommée, et pourtant ils la lui méritèrent. Mais les circonstances dont ils ont jailli et qui les avaient chargés d'électricité, pour ainsi dire, ne sont plus. Ne remuons pas, ne comptons pas ces grains de sable qui furent des étincelles et que le temps dispersa après les avoir éteints. Grâce à la diversité des vocations, il y a des gloires qui ne sont rien de plus que du bruit dans un silence et qui doivent à jamais alimenter la rêverie en désespérant la pensée. Seulement, comment n'être pas frappé de ce vague de gloire tombant sur un homme aussi positif que Brummel, qu'il était trois fois, puisqu'il était vaniteux, anglais et dandy. Comme tous les gens positifs qui ne vivent pas loin d'eux-mêmes et qui n'ont de foi et de volonté que pour les jouissances immédiates, Brummel ne désira jamais que celles-là et il les eut à foison. Il fut payé par la destinée de la monnaie qu'il estimait le plus. La société lui donna tous les bonheurs dont elle dispose. Et pour lui, il n'y avait pas de plus grande félicité. Car il ne pensait pas comme Byron, tantôt renégat et tantôt relapse du dandysme, que le monde ne vaut pas une seule des joies qu'il nous ôte. À cette vanité éternellement enivrée, le monde n'en avait pas ôté. De 1799 jusque vers 1814, il n'y eut pas de raout à Londres, pas de fête où la présence du grand dandy ne fut regardée comme un triomphe et son absence comme une catastrophe. Les journaux imprimaient son nom à l'avance, en tête des plus illustres invités. Au bal d'Almack, au meeting d'Ascot, il pliait tout sous sa dictature. Il fut le chef du club Wattier, dont Lord Byron était membre, avec Lord Alvanley, Mildway et Pierre Point. Il était l'âme, est-ce l'âme qu'il faut dire, du pavillon de Brighton, de Carlton House, de Belvoir, lié plus particulièrement avec Sheridan, la duchesse d'York, Erskine, Lord Townsend, et cette passionnée et singulière duchesse du Devonshire, poète en trois langues, et qui embrassait les bouchers de Londres avec ses lèvres patriciennes pour enlever des voix de plus à M. Fox, il s'imposait jusqu'à ceux qui pouvaient le juger, qui auraient pu trouver le creux sous le relief, si réellement il n'avait été que le favori du hasard. On a dit que Mme de Staël fut presque affligée de ne pas lui avoir plu. Sa toute-puissante coquetterie d'esprit fut éternellement repoussée par l'âme froide et la plaisanterie éternelle du dandy, de ce capricieux de neige qui avait d'excellentes raisons pour se moquer de l'enthousiasme. Corinne échoua sur Brummel comme sur Bonaparte, rapprochement qui rappelle le mot de Lord Byron cité déjà. Enfin, succès plus original encore, une autre femme, Lady Stanhope, l'Amazone arabe qui sortit au galop de la civilisation européenne et des routines anglaises, ce vieux cirque où on tourne en rond, pour ranimer ses sensations dans le péril et l'indépendance du désert, ne se rappelait, après bien des années d'absence, de tous les civilisés laissés derrière elle, que le plus civilisé peut-être, le dandy Georges Brummel. Certes, quand on fait le compte de ces impressions vivantes, ineffaçables sur les premières têtes d'une époque, on est obligé de traiter celui qui les a produites, fût-ce un fat, avec le sérieux que l'on doit à tout ce qui prend en vainqueur les imaginations des hommes. Les poètes, par ceux-là seuls qu'ils réfléchissent leur temps, se sont imprégnés de Brummel. Moore l'a chanté, mais qu'est-ce que Moore ? Brummel fut peut-être une des muses de Don Juan invisible au poète. Toujours est-il que ce poème étrange a le ton essentiellement dandy d'un bout à l'autre et qu'il éclaire puissamment l'idée que nous pouvons concevoir des qualités et du genre d'esprit de Brummel. C'est par ces qualités évanouies qu'il monta sur l'horizon et s'y maintint. Il n'en descendit pas, mais il en tomba, emportant avec lui dans sa perfection une chose qui, depuis lui, n'a plus reparu que dégradée. Le turf hébétant a remplacé le dandysme. Il n'y a plus maintenant dans le high life que des jockeys et des fouetteurs de chiens. Chapitre 11. On touche vite, quand on écrit cette histoire d'impression, plutôt que de fait, à la disparition du météore, à la fin de cet incroyable roman, qui n'est pas un conte, dont la Société de Londres fut l'héroïne et Brummel le héros. Mais dans la réalité, cette fin se fit longtemps attendre. À défaut de fait, la mesure historique du temps comprenne les dates, et l'on jugera de la profondeur de cette influence par sa durée. De 1793 à 1816, il y a 22 ans. Or, dans le monde moral comme dans le monde physique, ce qui est léger se déplace aisément. Un succès continu de tant d'années montre donc que c'était bien à un besoin de nature humaine, sous la convention sociale, que répondait l'existence de Brummel. Aussi, quand plus tard il fut obligé de quitter l'Angleterre, l'intérêt qu'il avait concentré sur sa personne n'était pas épuisé. L'enthousiasme ne se détournait pas de lui. En 1812, en 1813, il était plus puissant que jamais, malgré les échecs que le jeu avait fait à sa fortune matérielle, la base de son élégance. En effet, il était fort grand joueur. On n'a pas besoin d'examiner s'il avait trouvé dans son organisme ou dans les tendances de la société qu'il voyait cette audace de l'inconnu et cette soif d'aventure qui font les joueurs et les pirates. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la société anglaise est encore plus avide d'émotion que de guinée, et qu'on ne domine une société qu'en épousant ses passions. Outre les pertes au jeu, une autre raison, à ce qu'il semble, pour que Brummel déclinât, c'était sa brouillerie avec le prince qu'il avait aimé et qui avait été, pour ainsi dire, le seul courtisan de leur relation. Le régent commençait à vieillir. L'embonpoint, ce polype qui saisit la beauté et la tue lentement dans ses molles étreintes, l'embonpoint l'avait pris. Et Brummel, avec son implacable plaisanterie et cet orgueil de tigre que le succès inspire au cœur, s'était quelquefois moqué des efforts de coquette impuissante à réparer les dégâts du temps qui compromettaient le prince de Galles. Comme il y avait à Carlton House un concierge d'une monstrueuse corpulence qu'on avait surnommé Big Ben, le Gros Ben, Brummel avait déplacé le surnom du valet au maître. Il appelait aussi Madame Fitzherbert Bénina. Ces audacieuses dérisions ne pouvaient manquer de pénétrer jusqu'au fond de ses âmes vaniteuses. Et Madame Fitzherbert ne fut pas la seule des femmes qui entouraient le prince héréditaire à s'offenser des familiarités de l'ironie de Brummel. Telle fut, pour le dire en passant, la cause réelle de la disgrâce qui frappa soudainement le grand dandy. L'histoire de la sonnette, racontée d'abord pour l'expliquer, est apocryphe à ce qu'il paraît. M. Jess ne s'appuie pas seulement pour la repousser sur la dénégation de Brummel, mais encore sur la vulgaire impudence, the vulgar impudence, qu'elle révèle. Et il a raison, car l'impudence était bien souvent dans le dandy, mais la vulgarité n'y était jamais. Un fait, d'ailleurs isolé, quelque expressif qu'il soit, ne vaut pas en gravité pour motiver une disgrâce les 100 000 coups de dard d'aspic lancés par Brummel de sa façon la plus légère contre les affections du régent. Ce que le mari de Caroline de Brunswick avait toléré, l'amant de Madame Fitzherbert, de Lady Conyngham, ne devait pas le supporter. Et l'eût-il supporté encore, le favori eût-il impunément blessé les favorites, que le prince, attaqué dans sa personne physique, son véritable moi, ne l'aurait pas souffert sans ressentiment. Le « Quel est ce gros homme ?» dit publiquement par Brummel à Hyde Park, en désignant son Altesse royale, et une foule d'autres mots semblables expliquent tout, bien mieux qu'un oubli de convenance, justifié du reste par un pari. Mais ni l'éloignement rancunier du prince, ni les revers au jeu, n'avaient encore, vers cette époque, 1813, ébranlé la position de Brummel. La main qui avait servi à son élévation en se retirant ne l'avait pas fait tomber, et l'opinion des salons lui était demeurée fidèle. Ce ne fut pas assez. Le régent vit avec amertume un dandy à moitié ruiné lutter fièrement d'influence contre lui, l'homme le plus élevé de la Grande-Bretagne. Anacréon Archiloque Moore, qui n'écrivait pas toujours sur du papier bleu céleste, et dont la haine irlandaise savait trouver parfois le mot qui poignarde le mieux, mettait dans la bouche du prince de Galles ces vers adressés au duc d'York et cités partout. « Je n'ai jamais eu de ressentiment ou d'envie de nuire à personne, excepté, maintenant que j'y pense, au beau Brummel, qui m'a menacé l'an dernier avec colère de me faire rentrer dans le néant et d'introduire à ma place, dans la fashion, le vieux roi Georges. » Ces vers offensants ne donnaient-ils pas raison aux propos tenus par le roi des dandys sur le dandy royal au colonel MacMahon ? Je l'ai fait ce qu'il est, je peux bien le défaire. Et ne prouvait-il pas, jusqu'à l'évidence, combien le pouvoir d'opinion qu'exerçait ce Warwick de l'élégance lui appartenait en propre, et à quel point il était indépendant et souverain. Une autre preuve encore plus éclatante de ce pouvoir fut donnée en cette même année 1813 par les chefs du club Voitier, qui, préparant une fête solennelle, mirent en sérieuse délibération s'ils inviteraient le prince de Galles, par cela seul qu'il était brouillé avec Georges Brummel. Il fallut que Brummel, qui savait mettre de l'impertinence jusque dans ses générosités, insista fortement pour que le prince fût invité. Sans nul doute, il était bien aise de voir chez lui, puisqu'il était du club, l'amphitryon qu'il ne voyait plus à Carlton House, de se ménager ce face-à-face en présence de toute la jeunesse dorée de l'Angleterre. Mais le prince, au-dessous de lui-même dans cette entrevue, oubliant ses prétentions de gentilhomme accompli, ne se souvint pas même des devoirs que l'hospitalité impose à ceux qui la reçoivent. Et Brummel, qui s'attendait à opposer dandisme à dandisme, répondit à l'air de la bouderie par cette élégante froideur qu'il portait sur lui comme une armure et qui le rendait invulnérable. De tous les clubs de l'Angleterre, c'était précisément ce club Vatier où la fureur du jeu dominait le plus. Il s'y passait d'affreux scandales. Ivre de Porto gingembré, ses blasés, dévorés de spleen, y venaient chaque nuit cuver le mortel ennui de leur vie et soulever leur sang de Normand. Ce sang qui ne boue que quand on prend ou qu'on pille, en exposant sur un coup de dé les plus magnifiques fortunes. Brummel, on l'a vu, était l'astre de ce fameux club. Il ne l'aurait point été s'il ne s'y fût pas plongé au plus épais du jeu et des paris qu'on y tenait. À la vérité, il n'était ni plus ni moins joueur que tous ceux qui s'agitaient dans ce charmant pandémonium où l'on perdait des sommes immenses avec l'indifférence parfaite qui, dans ces occasions, était pour les dandys ce qu'était la grâce pour les gladiateurs tombant au cirque. Beaucoup, ni plus ni moins que lui, éprouvèrent dans tous les sens la chance commune. Mais beaucoup aussi purent l'affronter plus longtemps. Quoique habile à force de sang-froid et d'habitude, il ne pouvait rien contre le hasard qui devait mater le bonheur de sa vie par la pauvreté de ses derniers jours. En 1814, les étrangers arrivés à Londres, les officiers russes et prussiens des armées d'Alexandre et de Blücher, redoublèrent la conflagration du jeu parmi les Anglais. Ce fut pour Brummel le moment terrible du désastre. Il y avait dans sa gloire et dans sa position un côté aléatoire par lequel l'une et l'autre devaient s'écrouler. Comme tous les joueurs, il s'acharna contre le sort et fut vaincu. Il eut recours aux usuriers et s'engouffra dans les emprunts. On a dit même avec sa dignité. Mais rien de précis n'a été articulé à cet égard. Ce qui aurait pu autoriser quelques bruits, peut-être, c'est qu'il était doué des qualités dangereuses qui relèvent par la pose jusqu'à la bassesse, et qu'il en abusa parfois. Ainsi, par exemple, on se souvenait de l'avoir vu accepter, dans ses gênes dernières, une somme assez considérable de quelqu'un qui voulait compter parmi les dandys en se réclamant de l'homme qu'il reconnaissait pour leur maître. Depuis, l'argent ayant été redemandé au milieu d'un cercle nombreux, Brummel avait tranquillement répondu à l'importun créancier qu'il avait été payé. « Payé ? Quand ?» avait dit le prêteur surpris. Et Brummel avait répondu avec son ineffable manière. « Mais quand je me tenais à la fenêtre de White et que je vous ai dit, à vous qui passiez, Jamie, comment vous portez-vous ? » Une telle réponse traînait la grâce jusqu'au cynisme. Et il n'en faut pas beaucoup de semblables pour que les hommes qui les entendent ne prennent plus la peine d'être justes. Du reste, l'heure à laquelle on ne l'est plus pour personne, l'heure du malheur, allait sonner pour Brummel. Sa ruine était consommée, il le savait. Avec son impassibilité de dandy, il avait calculé, montre à la main, le temps qu'il devait rester sur le champ de bataille, sur le théâtre des plus admirables succès comme du monde ait jamais eu, et il avait résolu de n'y pas montrer l'humiliation après la gloire. Il fit comme ces fières coquettes qui aiment mieux quitter ce qu'elles aiment encore que d'être quittées par qui ne les aime plus. Le 16 de mai 1816, après avoir dîné d'un chapon envoyé par Vatier, il but une bouteille de Bordeaux. Byron en avait bu deux quand il avait répondu à la revue d'Édimbourg par sa satire des bardes anglais et des critiques écossais. Et il écrivit, sans espoir et nonchalamment, comme un homme perdu tente le sort, cette lettre qu'on a déjà citée. « Mon cher Scrope, envoyez-moi 200 livres. La banque est fermée et tous mes fonds sont dans le 3%. Je vous rendrai cet argent demain matin. Tout à vous, Georges Brummel. » Il lui fut répondu immédiatement par Scrope Davis ce billet spartiate de laconisme et d'amitié. « Mon cher Georges, c'est très malheureux, mais tous mes fonds sont dans le 3%. Tout à vous, Scrope. » Brummel était trop dandy pour se blesser d'un tel billet. Il n'était pas homme à moraliser là-dessus, dit spirituellement M. Jess. Il avait jeté, par amour de joueur, pour les décisions du hasard, une feuille sur l'eau, et l'eau l'emportait. La réponse de Scrope avait une sécheresse cruelle, mais elle n'était pas vulgaire. De dandy à dandy, l'honneur restait donc sain et sauf. Brummel fit une stoïque toilette et le soir même parut à l'opéra. Il y fut ce qu'est le phénix sur bûcher, et plus beau encore, car il sentit qu'il ne renaîtrait pas de ses cendres. En le voyant, qui aurait dit un homme foudroyé ? Après l'opéra, la voiture qu'il prit fut une chaise de poste. Le 17, il était à Douvres, et le 18, il avait quitté l'Angleterre. Quelques jours après ce départ, on vendit by auction et par ordre du shérif de Middlesex l'élégant mobilier du dandy, man of fashion, parti pour le continent, ainsi que le disait le livre de vente. Les acheteurs furent ce qu'il y avait de plus à la mode à Londres et de plus distingués dans l'aristocratie anglaise. On comptait parmi eux le duc d'York, les lords Yarmouth et Bessborough, Lady Warburton, Sir Henry Smith, Sir Henry Peyton, Sir William Burgoyne, les colonels Sheldon et Cotton, le général Phipps, etc. Tous voulaient et payèrent comme des Anglais qui désirent ces reliques précieuses d'un luxe épuisé, ces objets consacrés par le goût d'un homme, ces frêles choses fingibles, touchées et à moitié usées par Brummel. Ce qui fut payé le plus cher par cette société opulente, chez laquelle le superflu était devenu le nécessaire, fut précisément ce qui avait le moins de valeur en soi. Les babioles, the knick-knacks, qui n'existent que par la main qui les a choisies et le caprice qui les a fait naître. Brummel passait pour avoir une des plus nombreuses collections de tabatières qu'il y eut en Angleterre. On en ouvrit une dans laquelle on trouva écrit de sa main « Je destinais cette boîte au prince régent s'il s'était mieux conduit avec moi ». Le naturel d'une pareille phrase la rend plus impertinente encore. Il n'y a que des fatuités de petite espèce qui manquent de simplicité. Arrivé à Calais, cet asile des débiteurs anglais, Brummel chercha à tromper l'exil. Il avait emporté dans sa fuite quelques débris de sa magnificence passée. Et ces débris d'une fortune anglaise étaient presque une fortune en France. Il loua chez un libraire de la ville un appartement qu'il meubla avec une somptueuse fantaisie et de manière à rappeler son boudoir de Chesterfield Street ou ses salons de Chapel Street dans Park Lane. Ses amis, s'il est permis de tracer un mot si sincère, car les amis d'un dandy sont toujours un peu les sigisbées de l'amitié, fournirent aux dépenses de sa vie, qui garda longtemps un certain éclat. Le duc et la duchesse d'York, avec lesquels il s'était lié plus étroitement depuis sa rupture avec le prince de Galles, Monsieur Chamberlain et beaucoup d'autres, alors et plus tard, vinrent très noblement en aide au beau malheureux, montrant ainsi, et plus éloquemment que jamais, la force d'impression qu'il avait exercée sur tous ceux qu'il avait connus. Il fut pensionné par les hommes qu'il avait charmés, comme un écrivain, un orateur politique, le sont quelquefois par les partis dont il représente les opinions. Cette libéralité, qui n'emporte avec elle aucune idée dégradante dans les mœurs anglaises, n'était pas nouvelle. Chatham n'avait-il pas reçu une somme considérable de la vieille duchesse de Marlborough pour un discours d'opposition? Et Burke lui-même, qui n'avait pas la largeur de Chatham et qui faisait du bombaste en vertu comme en éloquence, n'avait-il pas accepté du ministre, le marquis de Rockingham, une propriété qui le rendit éligible au Parlement? Ce qui était nouveau, c'était la cause même de cette libéralité. On était reconnaissant au nom d'un plaisir senti comme au nom d'un service rendu. Et l'on avait raison, car le plus grand service à rendre aux sociétés qui s'ennuient, n'est-ce pas de leur donner un peu de plaisir? Mais il y eut plus étonnant encore que cet exemple d'une reconnaissance toujours rare. L'ascendant du dandy n'était pas mort du coup de l'absence. Il survivait à son départ. Les salons de la Grande-Bretagne s'occupèrent autant de Brummel exilé que quand il était là, dictant ses arrêts à ce monde qu'on soumet quand on l'aime, mais qui écrase quand on le fuit. L'attention publique perçait le brouillard, franchissait la mer, et l'atteignait sur l'autre rive, dans cette ville étrangère où il s'était réfugié. La fashion fit maint pèlerinage à Calais. On y vit les ducs de Wellington, de Rutland, de Richmond, de Beaufort, de Bedford, les lords Sefton, Jersey, Willoughby, de Risby, Craven, Ward et Stuart de Rosay. Aussi superbe qu'à Londres, Brummel conserva toutes les habitudes de sa vie extérieure. Un jour, Lord Westmoreland, passant par Calais, lui manda qu'il serait heureux de lui donner à dîner. et que le dîner serait pour 3 heures. Le beau répondit qu'il ne mangeait jamais à cette heure-là et refusa sa seigneurie. Il vivait, du reste, avec la monotone routine des Anglais oisifs sur le continent, et dans une solitude troublée seulement par les visites de ses compatriotes. Quoiqu'il n'affectât pas de hauteur aristocratique ou misanthropique, sa courtoisie avait si grand air qu'elle n'attirait pas beaucoup les hommes dont le hasard l'avait rapproché. Il restait étranger par le langage et il le restait davantage par les habitudes de son passé. Un dandy est plus insulaire qu'un Anglais, car la société de Londres ressemble à une île dans une île. Et d'ailleurs, il ne faut pas être trop souple pour y paraître distingué. Cependant, malgré sa réserve un peu orgueilleuse, il résistait moins aux avances quand on les faisait sous les apparences d'un bon dîner. Son amour de la table, fin comme un goût et exigeant comme une passion, avait toujours été un des côtés les plus développés de son sybaritisme. Cette sensualité, assez commune chez les hommes spirituels, rendait sa vanité moins intraitable. Mais son incomparable aplomb couvrait tout. « Qu'est-ce là qui vous salue, Sefton ?» disait-il alors Sefton dans une promenade publique. Et c'était l'honnête provincial chez lequel, lui, Brummel, dînait le jour même qui le saluait. Il habita Calais plusieurs années. Sous le vernis de cette vanité, toujours en grande tenue, il cacha probablement bien des douleurs. Parmi toutes les autres, il y en eut aussi d'intelligence. En effet, suprême homme de conversation, la conversation lui était devenue impossible. Son esprit, qui avait besoin pour s'enflammer de l'étincelle de l'esprit d'autrui, demeurait sans ressources. Rude angoisse que Madame de Staël a sentie. La pensée qu'il lançait son nom jusqu'à Londres, que les plus pimpants de ce monde qu'il ne hantait plus, venait de temps en temps lui apporter quelques souvenirs, mêlés d'une curiosité impérissable, ne suffisait plus pour le dédommager de ce qu'il avait perdu. Mais la vanité d'un dandy, quand elle souffre, est presque de l'orgueil. Elle devient muette comme la honte. Qui a tenu compte de cela à l'homme frivole? Ne sachant peut-être comment occuper des facultés désormais inutiles, il se jeta dans une correspondance avec la duchesse d'York, pour laquelle il peignit un écran très compliqué et dont il inventa les figures. À Belvoir, à Outlands, partout le duc et la duchesse d'York l'avaient comblé. Mais depuis la trahison de la fortune, la duchesse lui avait montré un sentiment qui jette un reflet de sérieuse tendresse sur cette vie brillante et aride. Brummel ne l'oublia jamais. Il paraît même que sans l'amitié de la duchesse d'York, à laquelle il avait promis de ne point révéler ce qu'il savait de la vie intime du régent, il aurait écrit des mémoires et refait ainsi sa fortune, car les libraires de Londres lui proposèrent des sommes immenses pour prix de ses indiscrétions. Ce silence très délicat, du reste, que la duchesse d'York lui ait fait garder, ou qu'il ait gardé de lui-même, ne toucha pas beaucoup l'épais égoïsme de Georges IV. Quand il traversa Calais, il est vrai pour aller visiter son royaume de Hanovre, 1821, il laissa, avec la mollesse d'une âme blasée, arranger les choses autour de lui pour une réconciliation. Mais Brummel ne se prêta qu'à moitié à ses combinaisons officieuses. Comme la vanité ne nous lâche jamais, même sur la roue, il ne voulut point demander d'audience au prince, qui n'était qu'un dandy, fort inférieur à ce qu'il était lui à ses propres yeux. Placé sur le passage de Georges, il s'y tint avec une douloureuse contrainte. L'ancien convive de Carlton House le vit sans l'espèce d'émotion qu'on trouve à revoir un compagnon de sa jeunesse, ce regret souriant du passé, poésie à l'usage des plus vulgaires. Dans un autre moment, comme on lui offrit une tabatière qu'il reconnut pour avoir fait partie de la fameuse collection de Brummel, il demanda qu'on le lui présentât et fixa l'heure de la réception pour le lendemain. Que serait-il arrivé s'il l'avait vu? Le roi de Calais, comme on disait de Brummel, serait-il retourné régner à Londres? Mais le lendemain, des dépêches ayant forcé Georges IV d'avancer son départ, Brummel fut parfaitement oublié. Son peu d'empressement avait été au moins égal à l'indifférence du prince. C'était une faute que cet indolent dégoût de toute avance vis-à-vis du roi d'Angleterre, quand on se place au point de vue de la politique de la vie. Mais s'il ne l'avait pas commise, il aurait été moins Brummel. Depuis, Georges IV ne reparla jamais du dandy aperçu à Calais. Il retomba dans l'engourdissement des souvenirs. Brummel ne se plaignit pas. Il garda le ferme et discret silence qui est le bon goût de la fierté. Pourtant, les événements qui suivirent eussent motivé, dans une âme plus faible, bien des récriminations. En très peu de temps, ses ressources d'Angleterre s'épuisèrent. Les dettes vinrent, la misère aussi. Il allait commencer de descendre cet escalier de l'exil dans la pauvreté dont parle Dante, et au bas duquel il devait trouver la prison, l'aumône et un hôpital de fous pour y mourir. La main qui l'arrêta encore sur les premières marches de cet horrible escalier fut une main royale, la main de Guillaume IV, dont le gouvernement créa une place de consul à Caen et la lui donna. D'abord maigrement rétribué, ce poste finit par ne plus l'être. Il s'effaça sous l'incapacité dédaigneuse de Brummel à le remplir. Plus tard, il les place à rebours de leur vocation, croit-il avoir fait beaucoup pour eux. Le temps que Brummel passa à Caen fut une des plus longues phases de sa vie. La noblesse de cette ville montra, par l'accueil qu'elle lui fit et la considération dont elle l'entoura, que les ancêtres des Anglais étaient des Normands. Cela put lui adoucir, mais non lui épargner les angoisses qui déchirèrent ses derniers jours. Monsieur Jess a fait le compte de ses abaissements, de ses douleurs. Nous les tairons. Pourquoi les raconter? C'est du dandy qu'il est question, de son influence, de sa vie publique, de son rôle social. Qu'importe le reste? Quand on meurt de faim, on cesse d'être dandy. Laissons cela. Seulement, rendons cette justice à Brummel, qui le fut aussi avant qu'homme puisse l'être dans la pauvreté et dans la faim. La faculté qui chez lui dominait resta longtemps debout sur les ruines de sa vie. Les autres, qui n'existaient que pour soutenir celle-là, en s'harmonisant avec elle, ne purent rien pour sa gloire et pas grand-chose pour son bonheur. Ainsi, il était poète. Il avait juste en lui le degré d'imagination nécessaire à un homme dont la vocation est de plaire. Mais ce qu'il a laissé de poésie, remarquable pour un dandy, n'illustrerait pas un écrivain. Nous n'avons donc point à nous en occuper. Dans cette étude d'homme si spécial à sa manière, tout ce qui n'est pas la vocation même, le doigt de Dieu sur l'intelligence, doit être laissé à l'écart. Chapitre 12. On sait quelle fut cette vocation et comme il l'a rempli. Il était né pour régner par des facultés très positives, quoique Montesquieu, un jour dépité, les ait appelées le « je ne sais quoi », au lieu de montrer ce qu'elles sont. Ce fut par là qu'il prima son époque. Comme l'aurait dit le prince de Ligne, il fut roi par la grâce de la grâce. Mais à la condition qui pèse sur nous tous, chercheurs d'influence, d'accepter de son temps les préjugés et même, jusqu'à un certain point, les vices. Aveu triste à faire pour les chastes du vrai en toutes choses. Si sa grâce avait été plus sincère, elle n'aurait pas été si puissante. Elle n'eût pas séduit et captivé une société sans naturel. À quel degré de civilisation raffinée, de corruption secrète, la société anglaise est-elle en effet arrivée pour que ce soit un mot profond et juste que celui-ci dit à propos d'un dandy comme Brummel? Il déplaisait trop généralement pour ne pas être recherché. Ne reconnaît-on pas là le besoin d'être battu qui prend quelquefois les femmes puissantes et débauchées? Est-ce que la grâce simple, naïve, spontanée serait un stimulant assez fort pour remuer ce monde épuisé de sensations et garrotté par des préjugés de toutes sortes? Si l'on restait parfaitement soi dans un tel milieu, que serait-on? À peine aperçu par quelques âmes d'élite restées saines et grandes, public, hélas, bien incertain. Or, on est vaniteux. On veut l'approbation des autres, mouvement charmant du cœur humain, que l'on a trop calomnié. C'est toute l'explication, peut-être, des affectations du dandysme. Il ne serait donc, en définitive, que la grâce qui se fausse pour être mieux sentie dans une société fausse, et dans ce sens, que le naturel, bien compromis, il est vrai, mais impérissable. On l'a dit au commencement de cet écrit, le jour où la société qui produit le dandysme se transformera, il n'y aura plus de dandysme. Et comme déjà, malgré son attache à ses vieilles mœurs, qui ressemblent à un fatal esclavage, l'aristocratique et protestante Angleterre s'est fort modifiée depuis 20 ans, il n'est guère plus que la tradition d'un jour. Qui l'aurait cru? Ou plutôt, qui aurait pu ne pas le prévoir? Cette modification s'est produite dans le sens d'une pente invariable. Victime de sa vie historique, l'Angleterre, après avoir fait un pas vers l'avenir, revient s'asseoir dans son passé. Si haut qu'est le cingle sur la mer du temps, elle ne brise jamais entièrement, comme le corsaire de son plus grand poète, la chaîne qui l'attache au rivage. Pour elle qui retient tout, qui garde tout, marble to retain, l'habitude asservie d'étranges sortes. Pour elle, la 7e peau du serpent ressemble toujours à la première qui l'a dépouillée. On croit un instant la trace de ce qui n'est plus évanoui. On écrit sur ce palimpseste, et il ne faut qu'une circonstance pour que ce qu'on croyait effacé reparaisse, lisible, ferme, éclatant. Aujourd'hui, le puritanisme auquel le dandysme, avec les flèches de sa légère moquerie, a fait une guerre de parte, en le fuyant plutôt qu'en l'attaquant de front, le puritanisme blessé se relève et panse ses blessures. Après Byron, après Brummel, ces deux railleurs d'un ordre si différent, mais d'une influence peut-être égale, qui n'aurait pas cru sur le flanc la vieille moralité anglicane? Eh bien non, elle ne l'est pas. Le Kant indéfectible, immortel, a vaincu encore. L'aimable fantaisie n'a qu'à jeter son sang d'essence de rose vers le ciel. Elle succombe sous l'opiniâtre nature de ce peuple indomptablement coutumier. L'absence de ces grands écrivains qui électrisent les imaginations et leur communiquent toutes les audaces. Et enfin l'influence sur la haute société d'une jeune reine qui a l'affectation de l'amour conjugal, comme Élisabeth avait celle de la virginité. Quelle meilleure source d'hypocrisie et de spleen! Le méthodisme qui était passé des mœurs dans la politique repasse à l'heure qu'il est de la politique dans les mœurs. Un poète, un homme de race qui tient de sa naissance le très facile courage d'avoir une opinion indépendante, comme il pourrait attendre de son talent une inspiration vraie, Lord John Manners, ne vient-il pas de publier un volume de poésie en l'honneur de l'Église établie d'Angleterre? Shelley, athée, n'aurait même plus la sécurité de l'exil. Le libéralisme d'idées, qui avait comme lui un rayon de l'intelligence de ses plus grands hommes sur ce pays du pharisaïsme hautain, de la convenance glacée et menteuse, n'a brillé qu'un moment rapide. Et la momie du sentiment religieux le formalisme y règne toujours au fond de son sépulcre blanchi. Tout est fini, tout est mort de cette belle société dont Brummel fut l'idole, parce qu'il en était l'expression dans les choses du monde, dans les relations de pur agrément. Deux dandys comme Brummel, on n'en reverra plus, mais des hommes comme lui, et même en Angleterre, quelques livrées que leur monde leur mette. On peut affirmer qu'il y en aura toujours. Ils attestent la magnifique variété de l'œuvre divine. Ils sont éternels comme le caprice. L'humanité a autant besoin d'eux et de leur attrait que de ses plus imposants héros, de ses grandeurs les plus austères. Ils donnent à des créatures intelligentes le plaisir auquel elles ont droit. Ils entrent dans le bonheur des sociétés comme d'autres hommes font partie de leur moralité. Natures doubles et multiples, d'un sexe intellectuel indécis, où la grâce est plus grâce encore dans la force, et où la force se retrouve encore dans la grâce, androgynes de l'histoire, non plus de la fable, et dont Alcibiade fut le plus beau type chez la plus belle des nations.